Bon, moi aussi, je veux bien. Ce matin, c'est la fête des mères. Ben oui, j'allais l'oublier. Et non, c'est la fête des mères, ça je ne l'ai pas oublié. Et c'est naturellement le thème ce matin pour la prédication. Je dois vous dire d'emblée, au départ, là, et c'est vrai, j'ai eu beaucoup de difficultés à produire la prédication de ce matin. Puis je me suis posé la question, pourquoi j'ai tant de difficultés, ça a été difficile jusqu'à la fin, jusqu'à hier même, j'avais beaucoup de difficultés. Je dis probablement que c'est dans le thème, c'est probablement que moi aussi ce matin, j'ai accouché avec douleur, en partie finalement, mais finalement il y a eu un résultat, vous constaterez le résultat. Mais déjà dans le texte, j'oublie mes mots ce matin. Vous voyez comment la difficulté est là. Dans le titre du message, déjà il y a une erreur. Différente et complémentaire, c'est différente, égale et complémentaire. Mais la semaine passée, notre frère Adama disait que la femme était différente, mais égale. Et c'est parfaitement vrai. Et j'ai focusé un peu là-dessus, la différence dans l'égalité, mais aussi dans la complémentarité. Et la femme, elle est complémentaire. La journée de la fête des mères, c'est une journée où tout ensemble, on se rappelle qu'est-ce que notre mère a fait depuis tant d'années, durant les 365 jours de l'année. Une mère, c'est présent 365 jours dans l'année. Et nous, on prend une journée pour s'en rappeler. Disparité un peu, mais quand même, on s'en rappelle. Aujourd'hui, je veux m'adresser aux mères, mais je veux aussi m'adresser aux femmes. Parce qu'une femme est essentiellement une mère, qu'elle a accouché ou non. Si on regarde les métiers, les professions que les femmes privilégient, que les femmes décident de prendre, on voit tout de suite les enseignantes. Les enseignantes, finalement, c'est une mère spécialisée en éducation. Ou infirmière, c'est une mère spécialisée en soins. Ou une technicienne en garderie, c'est une mère spécialisée en protection. Ou une secrétaire, c'est une mère spécialisée en organisation. Payer les comptes, placer les choses. Combien de fois le mari dit « Hey, où c'est que tu as mis telle affaire? » Et elle répond toujours « Oui, c'est là. » Ou la cuisinière, le chef cuisinier, c'est une mère spécialisée en cookerie, en nutrition. Ce sont généralement les métiers que l'on retrouve aussi dans la maison, mère au foyer. Si on parle de travail au foyer, on peut voir des tâches qui ne sont pas très valorisées dans notre société. La mère au foyer n'est pas vraiment dans toutes ses valeurs. Le travail de femme au foyer, le travail de mère, c'est exigeant, c'est multifonctionnel, ça demande beaucoup de compétences, c'est non valorisant et mal payé. Et je disais, si vous allez sur Internet, vous cherchez salaire d'une femme au foyer. Et j'ai été sur Internet et j'ai vu que si on devait payer une femme au foyer, selon sa compétence, selon les responsabilités et selon le temps qu'elle met à faire son travail, elle devrait avoir un salaire de 152 727 $ par année. Donc, votre petite paye, là. Donc, je m'adresse donc aujourd'hui aux mères, ceux qui aspirent à être mères, aux femmes, Et finalement, je m'adresse aux hommes qui sont habituellement et très souvent servis par les femmes. Ici, on regarde l'origine de la femme. On la connaît tous, l'origine de la femme. Et on voit dans Genèse 2, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » On connaît ce texte-là, je dirais, même par cœur. On connaît les aboutissants de ça. Mais, j'ai eu de la misère avec un peu avec mes yeux. Oui, j'en ai une, par contre. Mais ça ne me donne pas des yeux, ça. On connaît tous la comptine qui dit que la femme a été créée de la côte de l'homme. Dieu n'a pas pris une partie de la tête de l'homme pour pas que la femme soit supérieure à l'homme ou une partie des pieds de l'homme pour pas que la femme soit en dessous de l'homme. Elle a pris une côte pour qu'elle ne soit pas ni en avant ni en arrière, mais qu'elle soit à côté de l'homme, une aide efficace à côté de l'homme, égale à l'homme, dans un seul but, dans le but de développer cette relation-là avec le Créateur et de gérer la création de Dieu. Et les deux ensemble avaient ce travail-là. Non pas juste l'homme, mais l'être humain, homme et femme, à part égale. Naturellement, Dieu a décidé de faire ça comme ça, et le fait que la femme soit créée à partir de l'homme donne un rôle différent à la femme, mais jamais inférieur. Elle n'a pas une place inférieure. Et c'est un peu comme l'image du deuxième violon dans une orchestre. Et je ne parle pas du deuxième violon comme expression, là. Okay? On connaît l'expression « être un deuxième violon », ça veut dire être moins bon que les autres. Ce n'est pas ça que je veux dire du tout. Mais le deuxième violon dans un orchestre, c'est un instrument excessivement important. Si le premier violon est placé pour faire les solos et faire les passes pointues, les cas particuliers, le deuxième violon, lui, est appelé le chef de pupitre ou le chef d'attaque. Et le deuxième violon a un rôle important. Et c'est par le deuxième violon que les autres musiciens vont se référer pour connaître le coup d'archet, ce qui doit être donné plus fort, plus léger. C'est le deuxième violon qu'ils vont voir. Donc, dans une orchestre, le deuxième violon est vraiment important. A de l'impact. Il a de l'impact sur la manière de faire le morceau. Bien, la femme est la même situation. Elle a énormément d'impact sur la manière que les choses vont se faire. Elle est une partie égale. Mais voilà, le péché est apparu, la chute. Le péché qui a fait en sorte que les relations se sont détruites. Et nous savons tous, nous avons un Dieu relationnel, un Dieu qui mise beaucoup sur les relations. Et il a fait l'homme et la femme dans le but qu'ils aient des relations. Mais le péché a détruit cela. Comme le péché a détruit la relation homme-Dieu, il a aussi détruit la relation homme et femme. Cette relation-là, elle est brisée. Et d'égal à égal, maintenant, la femme qui avait été créée pour être une aide, pour rendre gloire et aimer le Créateur, maintenant, elle est devenue en compétition avec l'homme, malheureusement. Et plus rien n'a été pareil. C'est ce que Jésus parlait lorsqu'il enseignait aux pharisiens dans Matthieu 19, de 7 à 10. Il avait dit, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre comme un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Même les disciples n'ont pas compris exactement le rôle dans le mariage d'égal à égal. Dieu établit des lois et des lettres afin de compenser la dureté du cœur de l'homme envers la femme. Il y a quelque chose d'inégal. Les disciples voyaient un avantage à se marier. Rien d'égal. Là. Si je me marie parce que j'ai un avantage à me marier, je ne vois rien d'égal là-dedans. Là. Je n'ai pas d'avantage si ce n'est que de rendre mon épouse heureuse. Si ce n'est de rendre la personne avec moi égale avec moi. Mais ce n'est pas la vision de l'homme. L'homme, par le péché, est devenu comme en compétition. Et je lisais un texte apporté par mon frère Michel dernièrement, puis il y avait un homme qui disait, 2 siècles avant Jésus-Christ, qui disait, « Lorsque les femmes seront égales à l'homme, elles seront supérieures. » Les hommes n'ont rien compris de l'égalité de la femme. Ils se posent toutes sortes de questions. Comment est-ce qu'une femme peut être égale à l'homme? Et c'est pourtant ce que Dieu a fait. Et lorsque le Seigneur dit « Il en était autrement au commencement », c'est lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a fait pour que ce soit tous les deux ensemble et non pas disparité. La femme est différente de l'homme, c'est certain, mais elle est différente dans sa complémentarité. Elle est capable de compléter ce que l'homme n'est pas. Une femme comme elle, dans la relation homme-femme, ce n'est certainement pas une relation obligée. Comme notre ancêtre Adam a dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est plutôt un soutien, une conseillère, une personne en qui je peux me confier pour prendre des décisions. C'est la personne qui je vais pouvoir aller voir pour dire « Est-ce que c'est la meilleure solution que j'ai? » Et lorsqu'elle apportera un bémol à ma décision, je me poserai des questions. Et je la traiterai comme mon égale. Elle est capable de décider des choses. Elle est tellement différente qu'elle ne peut pas avoir la même opinion que moi. Mais je devrais en tenir compte. La relation qui a été créée au commencement se devait harmonieuse, complice, complémentaire. Elle se devait d'être comme ça. Ça devait être ça que Dieu a créé. On devait être capable de vivre ensemble et de s'aimer ensemble, de pouvoir faire des projets ensemble. Cette relation comme épouse est encore plus évidente lorsque j'ai épousé la femme qui est à côté de moi. Elle est devenue une seule chair. En partie, je suis devenu ce qu'elle a été influencée. Si je suis devenu ce que je suis, c'est la faute d'Hélène. C'est la femme qui a été mise à côté de moi, si vous voulez. Je crois qu'on a encore à lutter contre le péché qui nous empêche d'avoir des relations harmonieuses. On le voit dans notre société que le divorce est absolument populaire et beaucoup trop populaire. Au lieu de dire « je vais t'aimer », comme c'est quoi la formule? Pour le meilleur et pour le pire, c'est plutôt « je vais t'aimer pour le meilleur jusqu'au pire ». Mais Dieu n'a pas vu cela comme ça. Quand il a créé l'homme et la femme, il n'a pas créé le divorce. Il a créé 2 êtres qui devaient avoir une relation ensemble et qu'ils devaient développer d'égal à égal. Mais aujourd'hui, c'est la fête des mères. Donc, je veux parler aussi aux mères. Être une maman, c'est un bienfait pour elle, pour elle-même. C'est une grâce que Dieu a faite. Et il dira dans 1 Timothée, « Ce n'est pas Adam qui avait été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée, délivrée, libérée, guérie, secourue, c'est le terme « sauvée », en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi. » dans la charité et dans la sainteté. Le terme « sauvé » ici fait peur. C'est-tu les mères qui vont être sauvées seulement que les mères? Non. Mais le terme « sauvé » veut dire « délivré ». Délivré de quoi? Délivré de ce poids de culpabilité qu'il y a eu à la transgression. La femme s'est laissée séduite et elle a chuté et ça porte un fardeau. Ça emmène un fardeau sur les épaules de la femme. Mais étant donné que la femme est capable de mettre au monde des enfants, bien, ça enlève ce fardeau de culpabilité-là. La femme a été créée pour l'avenir de l'humanité. Il aurait fallu bien d'autres choses quelle autre chose qui aurait pu être mieux que la femme pour mettre au monde. Elle a la capacité non seulement de mettre quelqu'un au monde, de mettre un enfant au monde, mais elle a la capacité d'en faire un homme ou une femme adulte. Ce n'est pas seulement qu'un accouchement, c'est la difficulté, mais il y a plus grande difficulté aussi, c'est qu'à tous les jours qui vont suivre, elle devra continuer à être une mère qui se développe. Ce n'est pas juste physique, c'est aussi émotionnel, psychologique, c'est aussi psychique. Tout l'être que la femme est a la capacité non seulement de mettre l'enfant au monde, mais de l'élever jusqu'à temps qu'il soit adulte. Elle a les attributs pour mettre au monde, mais les attributs pour nourrir, pour éduquer, pour aimer un enfant. Mais elle a la capacité non seulement en dedans d'elle, mais elle a aussi la capacité de développer cela jour après jour. On voit les jeunes mères qui accouchent pour la première fois super stressées. Hey, un enfant, quelle responsabilité, je ne sais pas comment faire ça, je ne sais pas comment. Et quand l'enfant est là, il y a quelque chose qui se développe en dedans de la mère qui fait qu'elle est capable de le faire. Le père, pas évident. Je me rappelle mon premier bébé, quand je l'avais dans mes bras, j'ai dit, comment ça se tient ça? Ça va casser certain. La mère l'avait comme naturellement. C'est quelque chose qui a popé en dedans d'elle en disant, je sais, c'est comme une nature en dedans de moi. C'est ça la mère. Elle est non seulement mère, déjà, la jeune fille à sa naissance, elle est mère en puissance. Il dort dans chaque femme des qualités maternelles, physiques et psychologiques. Chaque femme a ça à l'intérieur d'elle. Si on voudrait définir ce qui dort dans le cœur d'une mère, et rien de tel que 1 Corinthiens 13. On pourrait remplacer charité par mère. La mère est patiente. En tout cas, la mienne l'a été. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle s'abandonne. Elle ne s'irrite point. Elle est patiente. Et c'est l'idée d'une mère. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point d'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Et remplacez le mot charité par mère. Une mère cesse d'être une mère lorsqu'elle meurt. Avant ça, elle est toujours une mère. Les mères ont les pouvoirs. Vous savez pas ça, hein? Les mères ont des pouvoirs. Comme les super-héros à Hollywood, là. Ceux qui ont des capes, des masques, puis tout ça. Mais elles, c'est des pouvoirs discrets. Les mères ont des pouvoirs, des super-pouvoirs. les oreilles d'une mère qui savent écouter même le silence. Je me rappelle quand le premier bébé ou le deuxième ou le troisième bébé est rentré chez moi, jamais un enfant a pu me réveiller. Il avait beau pleurer comme il voudra, j'étais couché puis je dormais. Mon épouse, par contre, de la minute qu'il lançait un seul petit cri, pouc, elle se levait. Puis moi, je me levais le matin et je dis, « Pis, t'as-tu bien dormi? » Elle a tellement les oreilles effilées qu'elle est capable d'entendre le silence. Quand le silence est là, trop profond, ça la réveille. Qu'est-ce qui arrive avec mon enfant? Ça, c'est les oreilles d'une mère. Les yeux d'une mère. On dirait qu'une mère a des yeux tout le tour de la tête. Puis elle voit à travers les portes. Des enfants qui sont dans la salle de bain puis qui a dit, elle n'a pas besoin d'ouvrir la porte. Qu'est-ce que vous faites dans la salle de bain, là? Ou lorsque l'enfant fait quelque chose en arrière, je t'ai dit de ne pas faire ça. Les yeux d'une mère qui va aussi dans la profondeur du cœur. Combien de fois mon épouse est arrivée, elle dit, as-tu remarqué telle chose de... Ah non, je n'avais pas vu. Mais elle l'a vu. Des yeux bioniques. Les mains d'une mère. C'est particulier, les mains d'une mère. Ça donne les meilleures caresses, les mains d'une mère. Je ne suis pas capable de donner ce genre de caresses-là, moi, c'est un homme. Moi, c'est des tapes que je donne. Les doigts d'une mère. Les doigts, ils savent parler. Quand on disait à nos enfants, quand on les prenait sur le fait, ils disaient, t'as fait ci, t'as fait ça, ou t'as fait ça, puis ils disaient, comment t'as fait pour savoir ça? Puis là, ils disaient, petit doigt. Là, l'enfant te regardait, il disait, hein, il parle. Puis là, il disait, oui, mais juste à moi. Les doigts d'une mère qui parle. Le corps d'une mère. Le corps d'une mère est fait pour donner. Pour donner de l'amour, pour donner de l'attention, pour donner de la nourriture, pour servir constamment. Elle le fait et c'est naturel. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est naturel. Lorsque mon épouse dit, « Ah, je suis tannée de faire de la cuisine, là. Je ne sais plus quoi manger, je ne sais plus quoi faire à manger. » Mais elle le fait quand même. J'arrive le soir à la maison, puis pouf, c'est là. Ouais, mais t'as pas fatigué, elle, là? Moi, à sa place, si j'avais dit, je suis fatigué, ça me tente plus, j'aurais dit, on va coller de la pizza. Non. Je vais le faire quand même. Le corps d'une mère est prêt à se donner, à se dévouer. L'attachement d'une mère. Je me rappelle, une mère va toujours être attachée à ses enfants, tout le temps. Je me rappelle quand ma dernière fille nous est venue nous dire, « Bon, bien là, je m'en vais. » C'était la fameuse période du nid vide. Quand elle m'a dit ça, je me suis reculé un peu et intérieur, j'ai dit, « Yes! » Je me suis reviré vers mon épouse, puis des larmes, je vous dis, « Hein, comment ça pleure? » L'attachement d'une mère. C'est difficile pour une mère de voir ses enfants partir. Une mère, c'est attachée à ses enfants. Un père, c'est un peu plus détaché. Lui, il pense qu'il va avoir plus de temps après. L'attachement d'une mère, qui est intemporel, peu importe le temps. L'amour d'une mère. Un amour inconditionnel. Et vous savez que j'ai fait sa prédication-là un peu en me faisant aider par mon épouse. Il fallait ça. Je n'étais pas capable de trouver moi-même. Mais l'amour inconditionnel. Elle me disait qu'elle lisait un texte. C'est une mère qui allait voir son fils qui était un meurtrier et qui était pour passer à la pendaison. Puis la mère se revire vers les personnes à côté, puis elle disait, « Dans le fond, mon fils, là, c'était quand même un bon gars. Un amour inconditionnel. Elle ne voit pas qu'est-ce qui est des fautes de leurs enfants. C'est un amour qui se donne. C'est un amour qui est sans condition. Et les inquiétudes d'une mère. Lorsqu'on parle de nos enfants, lorsque mon épouse parle de nos enfants, on dit, elle a vu telle affaire ou a vu telle chose ou tel autre enfant a vu telle affaire. Puis même là, on est rendu avec nos petits-enfants. Nos petits-enfants, ils vont bien ou ils vont mal ou on a peur pour eux. Mais mon épouse, c'est elle qui initie beaucoup plus souvent les conversations que moi. Les inquiétudes d'une mère qui sont constantes. Elle se préoccupe que ses enfants aillent bien. Et lorsqu'ils ne vont pas bien, elle tente même de trouver une solution. La solution ne vient pas toujours d'elle, mais elle-même, elle cherche. Là, je me suis dit, c'est vrai dans un milieu chrétien. C'est vrai aussi à l'extérieur. Les mères sont comme ça. Mais j'ai voulu en avoir la preuve. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit test. Depuis quelques temps, j'ai fait un test. J'ai fait le jeu de l'association d'idées. Vous la connaissez, le jeu de l'association d'idées? Je lance un mot et la personne doit répondre par un autre mot. J'ai fait ça avec plusieurs catégories. J'ai commencé par une grand-mère. Je dis à une grand-mère le mot « mère »,« maman ». Répondu « don de soi ». Hein? C'est logique, c'est vrai, c'est vrai. J'ai posé la question à de jeunes enfants. Il y en a un m'a répondu « adorable ». L'autre m'a répondu « aimable ». J'ai posé la question à une jeune fille qui commence son adolescente. Elle a répondu « présente ». J'ai posé la question à une maman d'âge mûr. Elle a répondu « un gros câlin ». Mais je voulais aller plus loin. Vous savez, j'enseigne la mécanique. Puis là, j'ai une gang de gars en avant de moi, entre 17 et 20 ans, qui, eux autres, tout ce qu'ils pensent, c'est le gros corps, le gros moteur, puis let's go. Fait que là, j'ai fait le jeu. J'ai dit, mais là, il faut pas qu'il... Fait que là, j'ai commencé par, bon, une table, puis j'ai pris un stratagème pour pas qu'ils se doutent. Là, j'ai lancé le mot « maman ». Je dis, oui, lancez-vous, c'est le temps, là. L'énorme mal à l'aise. Là, il y en a un qui se décide. Il dit, oui, c'est quoi? Décide. Non, ouais, dit, fatigante. Ouais. Fait que là, ça a parti le bal, hein? Tombe sur les nerfs. Là, j'ai dit, oups, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Là, je me suis dit, en y pensant comme il faut, j'étais dans mon auto par après, j'ai dit, ouais, ça ne marche pas, mon affaire. Mais après ça, j'ai dit, non. C'est pas la mère qui est en cause. C'est la perception du jeune vis-à-vis la mère. La mère est tellement aimante, elle est prête à devenir fatigante pour son jeune, pourvu qu'elle sache comment son jeune va. Elle est prête à accepter l'ignominie de ses enfants pour leur bien-être. Ça va loin, l'amour d'une mère. Ça va très loin. Ça dépasse qu'est-ce qu'on peut comprendre. Si on regarde comme il faut, Dieu lui-même a créé la femme un peu plus à son image que l'homme. Parce que c'est le genre d'amour que Dieu a pour nous. Il l'a mis dans le cœur de la mère. C'est émouvant lorsqu'on regarde ça. On dit « wow ». Finalement, c'est vrai que la femme n'a pas été créée égale à l'homme. Elle est supérieure. Et c'est tant mieux. Puis à ce moment-là, j'haïs pas ça être un homme, là. Dieu lui-même va s'attribuer des particularités d'une mère. Un autre verset que l'on connaît, Dans Ésaïe 66,13, il dit « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. » Dieu savait qu'une mère sait consoler. Et il a pris cet exemple, il a pris cette image d'une mère qui console. Comme une mère console, je vais vous consoler. Wow! C'est vrai. Lorsqu'un enfant se blesse au parc, son premier regard, c'est vers sa mère. Parce qu'il sait la tendresse d'une mère. Qu'est-ce que ça peut guérir comme bobo, ça? Qu'est-ce que ça peut guérir comme peine? Je lisais des citations. Il disait, lorsque tu perds une mère, c'est le premier chagrin que tu as sans elle. Tu vas toujours vers ta mère si tu es blessé, si tu as mal, si tu vis une douleur. Encore aujourd'hui, nos filles sont vieilles, mais disons, pas vieilles, plus vieilles, mais encore aujourd'hui, lorsque nos enfants reviennent à la maison, ils nous expliquent ce qu'ils vivent, puis ils vont vers leur mère, puis ils le parlent encore, même encore aujourd'hui. Le dernier exemple que je veux vous laisser, c'est Christ lui-même. Imaginez Christ qui s'est fait fouetter, qui s'est fait injurier, qui a eu une couronne sur la tête, qui est rendu au point de mourir. Et pas mourir parce qu'il méritait. On le sait très bien qu'il est mort sur la croix pour porter nos péchés. Il avait le poids des péchés sur ses épaules. Et il avait encore la force de dire à sa mère qui était là. Et Christ qui était sur la croix, cloué et au bout de ses forces, avait encore la force de dire « Femme, voilà ton fils. » Et il parlait à Jean. Il dit, c'est-à-dire, il parlait à sa mère, il disait à Jean, puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Le Seigneur lui-même savait que sa mère avait besoin. Et il s'en est préoccupé. C'est comme si c'était aussi important pour Christ de porter les fardeaux du monde que de s'occuper de sa mère. Ça devrait nous parler à ce moment-là. Ça devrait nous dire quelque chose. On a vu, depuis le début de la prédication, on a vu qu'une mère ou une femme pouvait faire de grandes choses, pouvait faire des choses super importantes, qu'elle avait de grandes capacités, de grandes possibilités. Elle avait un amour débordant, un amour constant pour l'autre, surtout pour ses enfants. Elle avait une sensibilité qui permet de déceler ce qui n'est pas visible. Voilà l'image d'une mère. Mais on ne peut pas arrêter là. Parce que la mère a des besoins. La mère et la femme ont des besoins. Elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'un toit, elle a besoin de nourriture, elle a besoin de vêtements, et elle est très bonne pour les choisir. Elle a besoin de tout ce qui incombe pour le vécu d'aujourd'hui, mais elle a besoin de se sentir aimée. Elle a besoin de savoir qu'elle est aimée. Et c'est aussi important que tous les besoins essentiels. Ça devient un besoin essentiel pour la mère et pour la femme de se sentir aimée. Dans Éphésiens 5, Paul dit aux Éphésiens par l'Esprit, « Marie, aimez vos femmes. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit ça parce que la femme a besoin de se sentir aimée. Elle a besoin autant de se sentir aimée que de nourriture sur la table, que de la chaleur dans la maison. C'est un besoin essentiel. Et il y avait eu un exemple d'un couple dans un bureau de thérapeute. Et le thérapeute pose la question à la femme, « Combien de fois par jour que tu verrais que ton mari te dit qu'il t'aime? » Verbalement. La femme, elle se lève les yeux au ciel, elle dit, « 100 fois. » 100 fois, à 101e fois, ça serait peut-être exagéré. Mais je tolère 100 fois. La femme a besoin de se faire dire qu'elle est aimée. Pas juste dire, « Oh, elle sait, voyons donc, j'y ai dit en 1995 que je l'aimais. » J'y ai dit au moins 3 fois dans sa vie. Nous, on n'a pas besoin de se faire dire qu'on est aimé. Ça fait du bien quand même. Mais on n'a pas besoin de se faire dire, ce n'est pas notre besoin essentiel. Mais la femme, oui. La mère, oui, elle a besoin. Et lorsque son petit bout de chou arrive à côté d'elle et dit, « Maman, je t'aime. » C'est un baume dans son cœur. C'est une récompense. C'est sa paye. C'est son 152 727 $ par année. Donc, si on regarde ça, si on dit « je t'aime », à chaque fois que vous le dites, c'est 1 $ vous devez le dire à tout par année, 157 727 fois, à votre mère ou à votre épouse que vous l'aimez. Si on veut rester dans des normes. Dieu est conscient du besoin profond de la femme. Et il nous le rappelle à nous. « Messieurs, dites à vos femmes que vous l'aimez. Dites-le à vos mères aussi. Dites-le à vos filles et à vos petites filles. J'ai des petits-enfants. Moi, chez nous, je suis choyé. J'ai 2 sœurs, pas de frères. J'ai 3 filles, pas de fils. Je suis choyé au niveau de dire que j'aime, là, j'ai de la place en masse. J'ai 4 petites filles pour 2 petits-fils. Donc, dans mon CV, là, je suis correct, là. Mais la femme, en général, a besoin de se faire dire qu'elle aime. Et quand on en prend vraiment soin, quand on prend note de ça dans notre tête, lorsque votre petite fille arrive et que vous lui dites « Et que je te trouve belle », vous venez de la valoriser. Vous venez de faire d'elle une femme et vous devenez un homme. Un homme, ça dit à sa femme qu'il l'aime. C'est vrai pour les sœurs de sang, c'est vrai pour les sœurs dans le Seigneur. Mes sœurs, je vous aime. C'est vrai aussi même pour le personnel féminin au travail, dans une certaine mesure. Là. Okay? Je ne dis pas à la secrétaire au bureau que je l'aime. Non, je ne dis pas ça. Par contre, lorsque j'ai à commander certaines choses, il y a toujours une place pour les remarques. J'écris toujours un petit mot d'encouragement. Merci pour le travail que tu fais, le bon travail que tu fais. Savez-vous, quand je demande quelque chose à la secrétaire que j'ai mal fait, là, que je trouvais, qu'elle trouvait de rectifier, elle a dit, moi, t'as le feu, il n'y a pas de problème. Une femme qui est aimée est facile de se soumettre. Soumettre dans le bon sens du terme. Est facile d'être un aide efficace. Mais elle doit se sentir aimée pour ça. Et c'est notre responsabilité, messieurs, d'aimer nos femmes. Non pas juste des aimer dans notre tête, mais les aimer avec nos mains. Les aimer avec notre parole, les aimer avec toutes les parties de notre corps. Vous savez, vous, comment plaire à la gente féminine autour de vous? Comment est-ce que je peux être en relation? Comment je peux recréer cette relation-là que Dieu me demande de faire? Comment est-ce que je peux revenir dans le jardin d'Éden en disant, « Qu'est-ce que tu as créé, Seigneur? J'aimerais retrouver cela. Comment je vais le faire? » Comment je vais réussir à annuler le péché dans cela? Parce que Dieu veut que j'aille une relation avec les femmes autour de moi, avec mon épouse, avec ma mère, avec des filles. Dieu veut que j'aille cette relation-là. J'ai connu des femmes que si je les avais achetées une douzaine de roses, ça n'aurait rien fait. Ils détestent les roses. Pourtant, mais il aurait aimé se faire dire qu'il était bonne dans telle catégorie ou telle catégorie. Vous savez, vous le connaissez. Si vous ne savez pas, apprenez à connaître vos femmes. Apprenez à connaître vos filles. Apprenez à connaître votre mère. Et faites-leur plaisir. Si c'est un projet que vous devriez avoir, faites-le à partir d'aujourd'hui. Et mettez-vous au défi d'aimer les femmes autour de vous comme eux vous servent. Méchant job, ça. Mais c'est quand même ce que Dieu nous demande. On va prier. Merci, Seigneur, pour cette relation que tu as mise devant nous, Seigneur, cette relation homme-femme. C'est toi, Seigneur, qui l'as créée. Ça vient de toi, Seigneur. Tu nous as fait ensemble. Tu nous as fait que l'on soit ensemble. Os de mes os, chair de ma chair. Seigneur, permets que cette relation puisse se développer. Qu'il n'y ait plus cette séparation que le péché a créée entre nous, Seigneur. Mais que tous ensemble, nous puissions avancer pour ta gloire et pour ton nom. Que je puisse rentrer en moi-même et regarder le péché de ma vie, et regarder le péché dans mes relations, et que je puisse l'enlever. Ton esprit peut m'éclairer là-dedans, Seigneur. Ton esprit peut faire en sorte que j'aie une relation de bénédiction, une relation à ta gloire. Que l'on soit des exemples pour ceux à l'extérieur que Satan maltraite de toutes les manières. Seigneur, nous savons que Satan voudrait que ce ne soit pas cela. Satan veut briser ce lien de relation. Mais permets, Seigneur, que l'on puisse passer par-dessus cela, vaincre ce péché et que toi, Seigneur, tu puisses être glorifié dans ces relations. Nous te demandons, Seigneur, tout cela pour ta gloire, pour ton nom, pour l'avenir, Seigneur, de cette assemblée, que l'on soit tous main dans la main pour ta gloire, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.